Radio Shalom.
Radio Shalom.
Chaque semaine sur Radio Shalom, le vendredi après-midi, 5 minutes, une halakha, et je le refais comme d'habitude. Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, c'est le vendredi après-midi avec Rav David Abendanan. Et Rav David Abendanan est en ligne avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir Bernard.
Alors Rav David, on va se poser un certain nombre de questions qui sont un petit peu liées à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on est à la maison, qu'on ne sort pas forcément à la synagogue ou voir un minyan, etc. Donc je sais pas, je vais prendre au hasard une question comme ça et on va pouvoir commencer à réfléchir. Par exemple, est-ce que je dois répondre « Amen » si j'entends une bracha à la radio ?
Lorsqu'on entend une bracha à la radio, il va falloir distinguer deux situations. La bracha à la radio qui va être retransmise en direct. Donc, j'entends la bracha au moment même où la personne qui a fait la bracha l'a prononcée. Dans ce cas-là, oui, je devrais répondre amen. Et la bracha à la radio qui va être retransmise en différé, qui ne va être qu'un enregistrement. Ça veut dire que la personne qui a fait la bracha l'a faite il y a déjà un moment. Et là, dans ce cas-là, non, je ne réponds pas amen à la bracha que je suis en train d'écouter à la radio.
Ok. Alors, on continue à essayer d'imaginer des situations particulières. Si j'entends une bracha en repassant le film de mon mariage.
Là aussi, le principe va être le même. Lorsque j'entends une bracha en train de repasser le film de mon mariage, bien entendu, à moins que je sois en train de me marier, mais non, c'est pas le cas. Donc, la bracha n'est pas en direct, ce n'est qu'un enregistrement, et je ne réponds pas amen à la bracha qui a été faite par un enregistrement. Donc, j'entends les brachot, on a envie de répondre par réflexe, on a envie de répondre, mais non, on ne répond pas amen, c'est un amen yetomat, un amen inutile, on ne répond pas amen à la bracha qu'on entendrait dans un enregistrement qui a eu lieu il y a un certain temps.
En même temps, c'est pas vraiment une bracha levatala, je peux dire amen à n'importe quoi. Vous me dites bonne santé,
eh bien,
je
non.
Dis amen.
Le amen, c'est un amen yetoma, c'est un amen inutile, on ne répond pas amen n'importe quoi.
Et c'est écrit où ça?
Amen Yetoma, c'est dans la halakha qu'on ne répond pas.
Non, non, mais où est-ce qu'on... Il est écrit dans la Gemara qu'on n'en répond pas.
Amen. Alors, la question que vous êtes en train de me poser, Bernard, si je comprends bien, c'est comment on peut connaître aujourd'hui une halakha qui va parler d'enregistrement, de choses qui n'existaient pas à l'époque de la Gemara, et l'appliquer à des sujets qui sont tellement actuels que des enregistrements et des retransmissions et des rediffusions. Il faut savoir que la Gemara nous raconte, et vous allez voir d'où l'importance d'étudier des sujets qui peuvent avoir l'air de ne pas nous concerner, qui peuvent avoir l'air anciens, inutiles, et en fait, on va se rendre compte que les Chachamim nous ont laissé assez d'outils pour trancher la halakha, même dans des situations qui sont extrêmement modernes. La Gemara nous raconte que lorsque les Bnei Israël, les Juifs, sont partis en exil après la destruction du Second Temple, ils se sont retrouvés en grande partie, il y avait une très grande communauté juive à Alexandrie, en Égypte. Cette grande communauté a fait, les Juifs là-bas ont fait beaucoup d'argent, ils se sont installés, ils ont construit une immense synagogue. Et la synagogue qu'ils ont construite à Alexandrie, la Gemara raconte qu'elle était tellement grande que lorsque le Chaliar Tzibour, lorsque le Chazan faisait la tfila à l'avant de la synagogue ou même au milieu, ceux qui se trouvaient aux extrémités, au fond de la synagogue, n'arrivaient pas à entendre la bracha, les brachot faites par le Chaliar Tzibour, par le Chazan. Du coup, ils avaient trouvé une technique. La technique qu'ils avaient trouvée, c'est qu'ils agitaient des foulards pour signaler aux gens, voilà, le Chaliar Tzibour a fini la bracha, il faut répondre amen. Donc on avait des gens qui n'entendaient pas la voix du Chaliar Tzibour, mais qui savaient juste qu'on était dans un moment où il fallait répondre amen, et à ce moment-là, les gens répondaient amen. Par conséquent, même si je n'entends pas la voix de la personne qui fait la bracha, je sais juste qu'il vient de la faire, et comment je le sais ? Puisque j'entends à la radio, par exemple, ou sur Internet, une retransmission en direct, eh bien, je peux me permettre de répondre amen. C'est écrit dans la Gemara.
Est-ce que je peux m'acquitter des brachot que j'entends de cette manière ?
Exactement, c'est une bonne question. En fait, lorsque j'entends une bracha, il faut savoir qu'on a deux principes qui vont se superposer. Le premier principe, c'est Shomea Keone. Lorsque j'entends, c'est comme si je prononçais. J'entends la Megillah, c'est comme si je l'avais lu moi-même. Pour pouvoir se rendre quitte par cette méthode, donc j'entends, c'est comme si je prononce, il y a trois conditions que la halakha requiert. La condition numéro un, c'est qu'il faut que je sois moi-même en train de ne pas parler en silence. Parce que si je suis moi-même en train de parler, on ne peut pas considérer que je suis en train de dire deux mots à la fois. La deuxième condition, je dois avoir l'intention de m'acquitter et la personne qui est en train de prononcer la bracha, la Megillah, peu importe, elle doit elle aussi avoir l'intention de me rendre quitte. Et la troisième condition, je dois écouter la bracha de quelqu'un qui est bar chiyuva, de quelqu'un qui a lui-même l'obligation. Un enfant qui serait en train de lire quelque chose, la paracha de Zachor, eh bien lui n'a pas l'obligation de la lire puisque c'est encore un enfant, il ne peut pas me rendre quitte. Or, lorsque j'entends la bracha de la radio, eh bien, je ne suis pas en train d'entendre la voix de quelqu'un qui a la mitzvah de la faire. Même si la personne qui se trouve de l'autre côté de l'émetteur, c'est quelqu'un qui a la mitzvah, qui doit accomplir la mitzvah, mais moi, ce n'est pas sa voix à lui que j'entends, c'est uniquement, ce sont les vibrations de la membrane du haut-parleur que je suis en train d'entendre. Or, mon haut-parleur, c'est un objet inerte, il n'a aucune obligation, aucun chiouf des mitzvot. Par conséquent, lorsque je réponds « Amen », et parce que là, on rentre dans une deuxième catégorie, dans le « Amen » qui veut dire juste « je m'associe à la bracha, je souhaite que ce soit vrai », je ne peux pas me rendre quitte de la bracha que je suis en train d'entendre, bien que je sois en train de répondre « Amen ». D'ailleurs, en parlant de cette synagogue à Alexandrie, Tosfot précise dans la Gemara que bien qu'il répondait « Amen » à la bracha, il n'était pas quitte. Donc, ils avaient le droit de répondre « Amen », mais par contre, ils ne pouvaient pas se rendre quitte. Donc, quand je réponds « Amen » à la radio ou sur Internet pour une bracha qui est en train d'être récitée, je dois répondre « Amen » si c'est en direct, mais je ne suis pas quitte de la bracha que je suis en train d'écouter.
Ah voilà, donc je me posais la question, c'est pas comme si je lis dans un livre, par exemple. Si j'entends à la radio, bon, il y a une forme de respect, mais c'est pas comme si moi je lisais dans un livre, en fait.
Exactement, ce n'est pas comme si moi-même je suis en train de prononcer ce que je suis en train d'entendre. Principe que nous avons pourtant dans toutes les brachot, ça veut dire par exemple quelqu'un fait le kiddush, je n'ai pas récité le kiddush, je l'ai juste écouté, entendu, je me suis concentré, j'ai eu l'intention de quitter, je suis quitte du kiddush. Ça fonctionne comme ça, mais si j'entends à la radio, eh bien non, je ne suis pas quitte de ce que je suis en train d'entendre à la radio.
Alors, je disais, vous allez dire vraiment que je passe du coq à l'âne, bien que vous avez vraiment un problème de cache-route, pardon pour ce bon mot. Alors justement, cache-route. Mais voilà, c'est un peu lié, comme je disais tout à l'heure, aux questions qu'on se pose aujourd'hui en pouvant pas toujours sortir. Aujourd'hui, on se fait beaucoup livrer. Et une question se pose. Quelqu'un vient me livrer, il est visiblement pas religieux, la plupart du temps, il n'est même pas juif. Il n'est pas moins bien que les autres en n'étant pas juif, mais il ne connaît pas les lois. Et il me donne quelque chose que je n'ai pas vu empaqueter. Bref, est-ce que ça, c'est cachère?
Vous avez raison, la question est liée au précédent, puisque ça fait partie des questions qu'on se pose en ce moment, dans ces périodes où on ne sort pas beaucoup et qu'on se fait livrer. Donc au-delà des minyanim qu'on peut faire à distance, ou des brachot auxquels on répond à distance, on peut avoir cette situation où on se fait livrer, la personne qui me livre, eh bien, n'est pas de confession juive, donc moi je ne vois pas de plaque de cacheroute. Tout ce que je sais, c'est que c'est elle qui m'atteste que ce qu'elle est en train de me remettre en main provient d'un restaurant cachère. Qu'en est-il au niveau de la halakha? Alors il faut savoir qu'au niveau de la halakha, on va distinguer deux catégories de produits. Les produits qui vont être à base de viande, de vin, de poisson, ces produits-là, il faut normalement deux tampons pour pouvoir valider la cache-route. Et les autres produits sur lesquels il faudra un tampon pour pouvoir valider la cache-route. Sans ce tampon-là, normalement, je ne peux pas consommer. Aujourd'hui, les restaurants qui font des livraisons, souvent, agrafent le ticket de caisse au sac de livraison, ou alors même carrément, beaucoup de hashgachot, même mettent un scotch qui contient, une fois qu'on l'a déchiré et qu'on l'a ouvert, eh bien, ça se voit que le scotch a été ouvert. Et ce scotch-là fait office de tampon, de rotam, de signature pour fermer. Si maintenant il s'avérait que je recevais quelque chose et que la personne qui l'a envoyé n'a pas pris ses précautions, malgré tout, bédiavad, dans des situations où la chose est déjà faite, on peut s'appuyer sur le fait que le livreur, c'est un professionnel, et en tant que professionnel, il ne veut pas risquer son métier, et donc il ne prendra pas le risque de changer le produit que j'ai reçu ou de mettre un produit non cachère à l'intérieur. Il y a aussi une deuxième chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que le produit que je reçois est conforme à ce que j'ai commandé. Je reconnais l'emballage du magasin, du restaurant, je reconnais le produit lui-même, donc je peux aussi m'appuyer, bédiavad, ça veut dire s'il n'y a pas eu les précautions qui ont été prises, sur ces signes de reconnaissance. Mais normalement, tout bon restaurateur le sait, et le Mashgiach Kashrout lui a fait la leçon avant, que lorsqu'on envoie un produit à emporter par un livreur tiers, eh bien il est normal d'agrafer un ticket de caisse et de mettre même un scotch qui comporte la Hashgacha, la surveillance rabbinique qui va faire office de validation pour la personne finale, pour le client final qui le recevra chez lui.
Rav David Abendanan, chaque semaine sur Radio Shalom, le vendredi après-midi, 5 minutes, une halakha. Et je vous remercie. Bonsoir à vous. Shabbat Shalom.
Bonsoir Bernard.
Radio Shalom.
Radio Shalom.